Le projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive.
Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
On fait ça pour la nature, on prend, on utilise, on jette. On fait ça aussi finalement pour le corps des femmes et puis pour plein d'autres personnes dans la société qui sont précaires, vulnérables.
Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
La traverse des résidences pour la résilience, Jasneuil, épisode 1. Voyage en pays mélusin. Des résidences pour la résilience, une série audio en immersion, produite et réalisée par La Traverse. Le but ? Rendre compte, pendant un an, de notre travail d'accompagnement de trois territoires du Poitou. Avec l'engagement et la volonté des forces vives, nous tentons de développer des dynamiques de transition qui répondent aux besoins du territoire. Un bénévole associatif, une habitante, un commerçant, une entrepreneuse, un élu, toutes et tous prennent le micro pour raconter leur territoire. Jasneuil, c'est le nom d'un village de 821 habitants situé dans le département de la Vienne, à une trentaine de kilomètres de Poitiers. Il y a quelques mois, la commune a engagé la démarche « Quel avenir pour Jasneuil ?». Son ambition ? Réfléchir à la transition du territoire en apportant des réponses aux besoins des habitants. Dans ce premier épisode, on s'intéresse à l'histoire du territoire, à ce qui compose son identité. Au total, ce sont plus d'une vingtaine d'entretiens et autant d'heures d'enregistrement qui fondent ce reportage. On y parle de la fée Mélusine et des Lusignans, du remembrement, de la fête du 15 août, de la maison du 15e et du bocage.
Jasneuil, c'est un petit village assez vallonné.
Sarah Bellini, étudiante originaire de Jasneuil.
Parce qu'il y a une partie plutôt haute, le pinacle. Après, un deuxième plateau qui est la mairie, là où j'habite aussi, c'est un petit peu haut, assez haut. Et ensuite, quand on descend vers l'église et vers la Vaune, évidemment, c'est plus bas. C'est très joli. Et ça remonte encore après avec les cités des Hautes-Vignes et pour aller vers Colombier là-bas. Et c'est très très joli, c'est très vert, c'est très calme. Il n'y a pas grand monde qui s'y promène et pas beaucoup de voitures non plus qui y passent. C'est pas très grand, on peut faire le tour à pied, je dirais en 10 minutes. Parce que quand je rentre le week-end chez mes parents, je suis quand même très 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 bien. C'est agréable d'y être et puis j'aime vraiment beaucoup me balader. Par exemple, le week-end dernier, on est allé ramasser des murs et c'était super agréable. Enfin, il y a une bonne ambiance. J'ai l'impression d'être en vacances quand je suis à Jasneuil, en fait.
Jasneuil, par lui-même, est un village absolument charmant et sympathique.
Claude Mazin, ancien habitant de Jasneuil, où il est né en 1949.
Aujourd'hui, on a dit combien Jasneuil compte 850 habitants à peu près, je crois. Hein, et sa superficie est de 3182 hectares. C'est une commune essentiellement agricole, avec la culture du blé, de maïs, de colza, et des prairies qui permettent l'élevage de bovins et un petit nombre de caprins. Hein, caprins qui vont servir évidemment à fabriquer le fromage de chèvre du Poitou-Charentes, bien connu, hein, le chabichou notamment.
Traditionnellement, c'est vrai qu'il y avait une population ici, donc rurale. Hein,
Bernard Chauvet, maire de Jasneuil.
À une certaine époque, beaucoup de gens travaillaient dans les fermes. Bon, actuellement, il reste 16 agriculteurs possédant et exploitant des terres sur Jasneuil. Sans compter les agriculteurs d'autres communes qui exploitent des terres. Mais 16 agriculteurs installés, ce qui est peu. Pour l'essentiel, la population qui est restée en dehors des artisans, ce sont des gens qui travaillent hors de Jasneuil. donc soit à Poitiers, soit à Saint-Mexan, soit à Niort. Alors on a quand même la chance d'être relativement bien placé, puisqu'on n'est pas très loin de la ligne de chemin de fer de Lusignan. Donc ça permet d'aller travailler soit d'un côté, soit de l'autre. Alors Jasneuil, déjà, c'est une petite commune tout à fait charmante, située en bordure de la rivière La Vaune, en plein pays mélusin, non loin de Lusignan, donc pays des fées. Jasneuil, c'est une ville qui a connu, qui a une très longue histoire, puisque à l'intérieur, il y a dans le bourg une église du XIIe siècle, très certainement bâtie sur d'anciennes ruines.
Jasneuil est l'une des 9 communes du pays mélusin. Si cette communauté de communes a aujourd'hui disparu, avec la création de Grand Poitiers en 2017, il existe toujours une identité commune forte. L'histoire locale est notamment marquée par la célèbre famille des Lusignan et par la légende d'une fée, bien connue de tous, la fée Mélusine.
Alors, l'association Les Lusignan et Mélusine, dans son titre, tout est résumé. C'est-à-dire que vous avez Mélusine d'un côté et vous avez les Lusignan de l'autre.
Marie-Françoise Collant, membre de l'association Les Lusignan et Mélusine.
C'est résumé dans la mesure où vous avez vraiment l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire la famille des Lusignan qui, eux, les Lusignan ont vraiment existé. Et puis, excusez du peu, ils ont quand même été rois de Jérusalem, Chypre et l'Arménie. Et après, vous avez la légende, mais tout le monde peut y croire, hein, ça c'est pas défendu, c'est Mélusine. Mais c'est un couple, comme je dis très souvent, indissociable, c'est un couple infernal.
Les références à la fée sont omniprésentes dans le territoire. Les noms des rues, des magasins, des salons de coiffure, les bâtiments historiques et les sentiers de randonnée. Connaître cette légende du Poitou semble alors une étape essentielle pour comprendre ce qui fonde, encore aujourd'hui, le territoire mélusin, dit aussi « pays des fées ». Maudite par sa mère, Mélusine devient tous les samedis mi-femme, mi-serpent. Pour conjurer le sort, une seule solution, trouver un époux qui, en échange d'un mariage parfait, accepte de ne jamais lui demander ce qu'elle fait le samedi. Jamais personne ne doit connaître son secret. Elle part alors dans la forêt de Coulombiers, et sa route croise celle de Raymondin, un jeune noble qui vient accidentellement de tuer son oncle à la chasse. Ils tombent nez à nez, et c'est l'amour fou. Elle lui expose le marché, et Raymondin accepte. Pendant plusieurs années, c'est l'amour paisible, confiant et sûr.
Puis un jour, il y a quand même quelqu'un qui vient à Lusignan, qui met le doute un peu dans son esprit, en lui disant, moi je viens tous les samedis, toi je te vois, mais ta femme, jamais. Alors Raymondin répond, ouais, je sais, elle est dans la tour Mélusine, elle prend un bain. Alors l'autre lui dit, d'accord, elle prend un bain, d'accord, mais t'as jamais réfléchi, là t'es sûr qu'elle ne te trompe pas. Et lui qui avait jamais pensé à quoi que ce soit, se met à gamberger, comme on dit. Il monte 4 à 4 tous les escaliers pour aller en haut de la tour Mélusine, il regarde par le trou de la serrure, et en effet, il voit Mélusine qui est dans son baquet en train de prendre son bain. Simplement, elle est assise, puis elle va se mettre debout. Et lorsqu'il la voit debout, il s'aperçoit qu'à partir du nombril, elle a sa fameuse queue de serpent. Mais il ne dit rien, mais les bras lui en tombent. Le soir, il rencontre à nouveau Mélusine. Les deux n'en parlent pas. Mais Mélusine étant une fée, elle sait très bien qu'il a regardé par le trou de la serrure. Elle sait tout, quoi. Elle voit tout. Mais ils ne disent rien.
La vie continue, chacun feignant l'ignorance. De leur union naissent 10 garçons. Chacun est affublé d'une tare physique, monnaie courante dans le cadre d'un mariage mixte entre un humain et un être surnaturel. Les enfants grandissent et des rivalités émergent, notamment entre Geoffroy, dit à la grande dent, et son frère cadet, un dénommé Fromont. Ce dernier décide de devenir moine, s'attirant les foudres de Geoffroy. Celui-ci ne décolère pas et décide de mettre le feu à l'abbaye de son frère.
Alors là, il va tuer 100 de moines, dont son frère. Alors à Mervent, parce que ce n'est pas Lusignan, mais à Mervent, Mélusine et Raymondin, puis d'autres gens, ils sont dans une pièce comme nous. Et malheureusement, il y a un écuyer de malheur qui arrive pour dire ce qui s'est passé. Et il s'adresse directement à Raymondin. Et Raymondin, quand il apprend ce qui vient d'arriver, il est fou de douleur, vous comprenez. Donc, il oublie sa promesse. Donc, il saute sur le poil à cette pauvre Mélusine en lui disant « Toi, femme serpente, c'est à cause de toi que ça arrive. »
Le secret de Mélusine devient public. La promesse entre elle et Raymondin est rompue. Elle se transforme alors et s'envole pour toujours. Mélusine, c'est la fée bâtisseuse, la fée de l'eau et de la nature.
Mais de toute façon, on a de l'eau partout. Parce que Mélusine, c'est vraiment, bah, en tant que femme serpente et tout ça, son élément, c'est l'eau, quoi.
Et le territoire ici,
on a la Vaune, la petite rivière qui passe, on a un petit ruisseau, le Bourseran. En fait, au départ, comme je vous disais, c'est une déesse païenne, c'était une dryade. Alors, la dryade, c'est une fée sylvestre. De la végétation, des arbres, de la nature, quoi, en fait.
Vous disiez que la légende de Mélusine, elle était indissociable de la famille de Lusignan.
Oui, parce que les Lusignans, bon, ça faisait très smart, hein, nous, ça nous fait sourire aujourd'hui, mais ça faisait très smart à l'époque d'avoir un être surnaturel comme ancêtre. Et nous, on l'appelle la fée bâtisseuse, parce qu'à chaque fois qu'il lui naissait un enfant, elle bâtissait quelque chose. Comme nous, aujourd'hui, on plante un arbre, par exemple, quand on a un enfant. Tout un tas de châteaux, mais enfin, Lusignan n'existe plus. Et vous avez Pouzauges, Tifauges, vous avez le donjon de La Rochelle, qui normalement a été construit par Mélusine. Bon, c'est le Richard Cœur de Lion, enfin, c'est Mélusine. Les deux tours, ce qui reste encore debout, si vous voulez, vous avez donc le donjon de Niort et deux tours à La Rochelle. C'est Mélusine aussi.
Mélusine est la figure centrale du folklore local qui lie les 9 communes de l'ancien pays mélusin. Cette histoire commune, le pays mélusin, la doit également à la célèbre famille des Lusignans.
Quand on sait que les Lusignans, au XIIIe siècle, c'est là qu'il y a vraiment ils sont au summum de leur gloire, est-ce que vous vous rendez compte que les terres qu'ils ont, c'est-à-dire leur fief, ça équivaut à 7 départements français aujourd'hui? Ils avaient plus de terres que le roi de France. D'ailleurs, ils ont été très longtemps, ils ont joué les arbitres, entre la famille des Plantagenêts, c'est-à-dire les Anglais avec lesquels on s'est bouffé le nez pendant des décennies, et la maison des Capétiens, les rois de France. Donc vous voyez quand même qu'ils avaient une certaine notoriété.
Comment c'est possible qu'ils aient eu toutes ces richesses? Ça vient d'où?
Ben, ils faisaient soit les piquets, comme je vous disais, hein. Ouais. En tapant sur la tête du voisin, mais ils étaient malins, ils faisaient des mariages.
Ah, c'était parfait.
Okay. Je ne sais pas si vous êtes allé vers le Crédit Agricole à la mairie, vous avez une place qui s'appelle Place Isabelle d'Angoulême. On se demande bien pourquoi on a une place d'Angoulême à Lusignan. C'est parce que Isabelle d'Angoulême, elle a épousé un Lusignan après avoir été reine d'Angleterre, puisqu'elle avait épousé Jean sans terre.
Les Lusignans rayonnent sur un vaste territoire qui va de l'île d'Oléron à Aubusson, en passant par Vouvant, Angle-sur-Langlin, Angoulême, Croisant. Mais ce fief illustre va connaître la chute au milieu du XIIIe siècle.
C'est une famille très, très illustre, très orgueilleuse, très ambitieux, mais c'est peut-être ça qui les a perdus d'ailleurs. Ce qui les a perdus aussi, c'est surtout les croisades. Et à leur décharge, il y a eu 8 croisades qui ont été lancées en France, et il y a toujours au moins un Lusignan qui a dit « Attendez-moi, j'arrive ». Mais après les Lusignans, le dernier des Lusignans est mort en 1303, et il n'avait pas d'enfant, du moins pas de garçon. Donc c'est Philippe le Bel qui va avoir le château. Il va acheter le château. Et c'est comme ça, si vous voulez, que le château de Lusignan va passer dans le giron de la couronne française et qu'il est donné après en ce qu'on appelle en apanage, c'est-à-dire en cadeau, à notamment des petits frères de rois. Ils ne sont pas rois, on va leur donner un jouet, il faut les consoler. Et c'est comme ça que le duc de Berry, qui est le petit frère de Charles V, ou 6, mais ça doit être le 5, qui lui, il n'est pas roi, donc on va lui donner Lusignan et le Poitou à gouverner. Et c'est lui qui va demander à un dénommé Jean d'Arras, qui est parisien, qui travaille pour son frère le roi, de lui coucher sur le papier la légende de la fée Mélusine.
Le Moyen-Âge est donc une période de rayonnement pour le Poitou, et le territoire mélusin y occupe une place centrale. C'est dans ce contexte que se développe le village de Jasneuil. Comme sa grande sœur Lusignan, Jasneuil possède un patrimoine riche et ancien. Claude Mazin, un enfant de la commune né en 1949, a fait de nombreuses recherches pour retracer l'histoire de son village.
L'histoire commence certainement même avant le début du christianisme, parce qu'on a retrouvé des vestiges de pierres sculptées, etc., ce qui fait que ce bras de la Vaune était certainement colonisé depuis des temps très très anciens. Mais quoi qu'il en soit, au IVe siècle, Jasneuil existait déjà et se nommait Zézi Noalo. Et Zézi Noalo, ça vient de... Le nom Jasneuil, si vous voulez, vient de Jasena, qui était un terrain long et étroit, et paradoxalement, c'est en ancien provençal. Et Yalo, c'était une clairière en gaulois. Donc on en est à Zézi Noalo. Hein. À cette époque, on termine, au 4e, 5e siècle, on termine la construction d'une villa gallo-romaine qui est alimentée par un aqueduc de 900 mètres, hélas, aujourd'hui complètement disparu. Plus tard, cette villa, qui existe toujours, servira d'hôpital, puis de couvent pour les religieuses de la communauté des Filles de la Croix, et aujourd'hui, c'est un centre de retraite pour travailleurs ayant des difficultés psychologiques. C'est ce qu'on appelle le logis de la cour. Hein ?
Le logis de la cour est une ancienne demeure seigneuriale. Avec l'église Jean-Baptiste et la maison du 15e, ce sont les trois bâtiments protégés au titre des monuments historiques sur la commune.
En 1164, donc on avance vraiment dans le temps, hein, le cœur de l'église est terminé. Donc, ce qui veut dire qu'en 1164, il y a vraiment une église romane, d'ailleurs de toute beauté, qui est classée et qu'on invite les gens à découvrir, notamment son chevet et son cœur, qui sont vraiment caractéristiques. En 1500, il y a une maison médiévale qui est construite. Elle commande le passage du pont qui existait déjà, ce pont gallo-romain qui a été détruit en 1955, si je me souviens bien. La maison du 15e, c'est évidemment une maison médiévale. Elle commande le passage du pont à l'époque et évidemment, elle encaisse le droit de passage. Le nom « Auberge de l'Écu » est souvent cité. C'était une auberge. Entre les deux guerres mondiales, elle a également servi de magasin et d'hôtel. Elle s'appelait l'Hôtel du Centre et il était tenu par Denis et Fernande Démier, qui étaient mes grands-parents maternels. Lorsque mes grands-parents prennent leur retraite, elle sera reprise en 1950 par Monsieur et Madame Guy Brault. Hein, qui poursuivront l'activité jusqu'en 1985, si mes souvenirs sont bons.
Cette maison du 15e, immense bâtisse située dans le centre-bourg, permet à elle seule d'imaginer ce qu'a pu être la vie à Jasneuil.
C'était très vivant, hein, autrefois, ce bourg de Jasneuil, parce qu'il y avait également deux boulangeries, il y avait un marchand de chaussures qui s'appelait Monsieur Fontenay, qui faisait lui également café. Alors, ce qui était particulier, c'est qu'il faisait son café et il vendait les chaussures dans la même salle. Et en même temps, il était cordonnier. Hein, voilà. Et si on remonte un peu plus haut, eh bien, vous aviez un bourrelier et vous aviez deux charpentiers, menuisiers. Qu'est-ce qu'il y avait également ? Ah oui, puis il y avait un autre commerce, c'était une quincaillerie générale qui était tenue par M. Maurice Vierfond. Donc c'était riche, hein, comme activité. On trouvait un peu à peu près de tout. Hein. Les gens, vous savez, à partir du moment où ils n'étaient pas difficiles, hein, dans les années après-guerre, eh bien sur Jasneuil, ils n'avaient pas besoin d'aller ailleurs. Hein. Ils trouvaient ce qu'ils voulaient.
Pendant la guerre, on avait l'épicière en bas. Où est la maison du 15e ?
Jean-Louis Maréchal, habitant de Jasneuil, où il est né en 1932.
On avait le café, où avait les pompes à essence à Opinac, en face de la place, là. Il y avait encore un petit service d'épicerie, il y avait le café, il y avait les journaux, il y avait tout.
Jean-Louis Maréchal est la mémoire vivante du village. En 1965, il intègre le conseil municipal. Il y restera 36 ans. Cette expérience riche lui donne envie d'écrire un livre qui nous a beaucoup servi pour réaliser ce podcast. Jasneuil, deux siècles d'histoire communale. En plus des nombreux commerces du centre-bourg, Jasneuil était animé toute l'année par plusieurs manifestations d'envergure, organisées principalement par de grosses associations rassemblant plusieurs dizaines de bénévoles.
Jasneuil, il y en a beaucoup dans les anciens qui vous diront, qui ne pourront pas vous dire le contraire, c'est que Jasneuil était une commune qui aimait l'animation. C'est ce qu'il faut se dire. Et on a formé une clique, moi j'étais tout jeune, on a formé une clique, on allait après, à l'époque il y avait des kermesses, toutes les paroisses faisaient leurs kermesses, on allait jouer au clairon, tout ça. Et suite à ça, j'ai joué ma première pièce de théâtre, j'avais 12 ans. C'était Rouget le braconnier, et c'était le curé qui faisait des théâtres. Et il y avait... Après, avec ça, avec le maire, il faisait bonne relation. Allez, ben après, il faut monter une clique. Ils ont monté. Allez, voilà comment que ça s'est animé. Et après, ben, de ça, il est venu la Feitistra, qui a eu une évolution énorme, ce que ma fille disait tout à l'heure. Il y avait les soirées théâtrales, le samedi et le dimanche, pas toujours. Il y avait le foot qui marchait très, très bien. À l'époque, à la petite salle que vous avez en bas, là, il y avait le monsieur est décédé, puis après ça s'est arrêté. Et on avait tous les mardis un film.
Moi, j'ai créé en 81 la NAJA, qui veut dire Nouvelle Association des Amis de Jasneuil, tout simplement.
Jacques Taureau, ancien habitant de Jasneuil et cofondateur de la NAJA.
Alors, on a créé un centre d'animation libre. Ça, ils avaient jamais vu ça. On avait des camps aussi, agréés, et d'expression corporelle. Hein. Ça, c'est dans le secteur animation jeune. Secteur sport et loisirs, on avait un peu de tout. Gymnastique d'entretien, tennis, ping-pong, rock, VTT... Et en plus, dans les autres activités, photo, bibliothèque, bref. Secteur environnemental, là, les chemins, GR, PR. Une section pêche et rivière. Okay. Et une section balade mélusine. Bon, c'était animation nature et mycologie. Il y a aussi Istra, histoire et tradition. En 84, hein, ça a été créé. On a surtout fonctionné avec nos envies, nous. Hein. Par exemple, à Istra, on montait des stands dans la rue, dans le bourg, des stands partout, et il venait des artisans, enfin, c'était plutôt pour la bouche. Et même nous, on y faisait, enfin l'association, y faisait de la cuisine. C'était une grosse expédition, celle des fêtes était trop petite pour pouvoir préparer tout ça. Enfin bref, et il est venu une année, je ne me souviens plus laquelle, où les normes sanitaires ont fait que, pas question de vendre sans avoir un truc réfrigérant, beaucoup de choses, alors ça a tout foutu par terre.
Ça ramenait du monde, hein, Istra. Oh là 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 là. Incroyable.
Annie Quitté, habitante de Jasneuil, où elle a longtemps tenu le bar du Pinacle.
On avait donc les repas, on préparait les repas, et on avait un stand aussi de tradition alimentaire. Et là, je ne vous dis pas, on faisait des farcis à plein, des gros farcis. Alors, je faisais une équipe pour la préparation. Alors, ça c'était chez une dame, alors elle se mettait à 5 ou 6, alors elle triait l'oseille, elle avait l'oseille. Et puis après, ça venait se terminer à la salle. La cuisson. L'andouille, on préparait les andouilles. Il y en avait des kilos, hein. Parce qu'on était un peu dans les premiers à faire ces fêtes-là. Et après, il y en a eu ailleurs, hein. Dans le même style, je ne peux pas dire pareil.
La vie à Jasneuil était également marquée par une grande fête qui rassemblait chaque année plusieurs centaines de personnes. On l'appelait la fête du 15 août.
C'était les anciens combattants, 14, 18, 39, 45, qui l'avaient organisé. Mais c'était dans le, quand vous sortez du pont venant de Jasneuil, c'était dans le pré en bas. Mais le pré était couvert. Et on fait une deuxième lire, quatre équipes de foot, mais d'une certaine importance. Donc ça a attiré un monde fou. Je me rappelle, on tuait un ou deux cochons qui se mangeaient dans le 48 heures. Fallait voir le monde qu'il y avait. Et nous, on faisait la clique, donc on ouvrait la séance, on commençait au pinacle. On faisait le tour du bourg avec les clairons, et après, on avait les honneurs en rentrant sur le parc, dans le champ, et puis après, il y avait les équipes de foot qui jouaient. Suite à ça qu'on a fait le terrain de foot là.
Et puis, c'était le président, d'ailleurs, des anciens combattants. Oui, je vais s'appeler M. Tavé, de choix, qui prêtait ce pré au bord de la rivière. Alors, bon, il fallait qu'on y trace. C'était avant que le club existe, ça, hein, avant 66. Il fallait qu'on y trace un terrain provisoire, avec des poteaux, bref. Tout le monde s'y mettait. Il fallait enlever les bousses de vache. Quand même sur la zone du terrain. Et puis, il y avait des jeux tout le long. Et puis, comme les anciens combattants, ils vieillissaient aussi. Hein. Et que le club de foot est arrivé, ils ont transmis en entente au club de foot de s'occuper de tout. Voilà, ça se faisait là. Et là, on a commencé, nous, à faire... C'est de ça que je parle, qu'on était mégalos. Notre premier festival des auteurs-compositeurs interprètes de la chanson française. Alors, ça avait surpris tout le monde, bien sûr. Non. On s'en était pas trop mal sorti. Si bien que l'année d'après, en 86, on l'a fait à Lusignan, à la plage. En 86. Là, on a bouffé le chapeau. Parce que le pire, c'est que on nous avait promis des subventions, puis elle venait pas, on avait se fâcher pour l'avoir, pour juste un peu éponger la chose. Bon, on a fait ça, mais on s'est rendu compte après, et puis d'ailleurs on nous l'a fait remarquer, que dans le milieu rural, hein, il aurait fallu 2000 personnes pour. On ne l'avait pas. Les gens aussi en ville, ils avaient tout vu. On va pas les faire venir à la campagne s'ils ont déjà vu ça. Pas pareil. Bon, alors on a arrêté, quoi.
Et autrefois, quand on venait dans le bourg, comme ça, il y avait les gens, il y avait des bancs, les gens étaient assis, là, ils discutaient et tout. Vous ne voyez plus ça. Le soir, après le dîner, ils allaient se retrouver sur ce banc, puis ils faisaient leur discussion. Oh, bonjour, quoi, monsieur. Il y avait des veillées aussi, autrefois. Et bien, le soir, l'hiver, on allait chez les voisins, ou chez des amis, ben, pas trop loin, parce que c'était à pied. Et puis, ils cassaient les noix, ils triaient les haricots, les trucs comme ça. En commun. C'était la veillée. Et je me souviens pour les vœux, pour la bonne année, hein, à ce moment-là, eh ben on allait toujours souhaiter la bonne année aux voisins. Et on avait un cadeau, quand on était gamin. Et vice-versa, quoi. C'était. Et il y avait des crêpes aussi, qu'on allait, des soirées crêpes, comme ça. C'était l'éveillé. Ça, je ne pense pas qu'on le revoie. Hein. Ou il faut que les mentalités changent. Hein. Donc, c'était dans la ferme, donc c'était les voisins qui étaient en ferme aussi. Enfin bon, voilà, c'était discussion si ça avait réussi. Moi, je sais pas, ma mère, c'était les lapins, les poules, si les... enfin des trucs comme ça. Ils parlaient toujours de ce qu'ils faisaient, quoi. C'était ça.
En plus des commerces et des animations de grande envergure, Jasneuil a toujours eu une école primaire depuis l'arrivée de son premier maître d'école en 1709.
Il y avait l'école des filles et l'école des garçons, comme dans toutes les communes. Hein. Je me souviens que mon instituteur, il s'appelait Monsieur Raoul Thoreau. C'était un personnage un peu particulier, puisqu'il était pour son époque extrêmement écologique. Donc un des premiers, il nous faisait faire des cours de gymnastique tous les matins et il mangeait du pain bio, le pain qu'il faisait lui-même. C'était un personnage un petit peu particulier. C'était quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il avait au moins 40 garçons dans sa classe qui allaient à l'époque, je ne sais pas comment que c'était, mais du CM2 à l'école au cours préparatoire. Dans la division dans laquelle j'étais, on était 4 garçons. Et vous voyez, il y avait 5 ou 6 divisions différentes, mais dans la même classe. Et à mon époque, les garçons qui venaient des villages les plus loin, tout le monde venait à pied. L'été, ça allait très bien. Mais l'hiver, ils partaient de nuit de leur ferme et repartaient pratiquement de nuit. Ils arrivaient évidemment... Il faisait nuit noire quand ils arrivaient chez eux.
Et il y avait l'école libre, donc, là-haut, pour les filles, et à côté, un peu plus loin, là, pour les garçons. C'est-à-dire que nous, l'école, là, des filles, il y avait deux classes. Il y avait une classe où on partait de je ne sais plus combien, parce qu'il y avait une classe de petits, donc là, c'était garçons et filles. Et quand on passait avec, au niveau supérieur, mais je ne sais plus à quel... Les garçons partaient là, et nous on restait là-bas. La petite classe, c'était garçons et filles.
Des services qui sont, comme dans la plupart des territoires ruraux, menacés par la baisse de la population. Bernard Chauvet, maire de la commune.
Il se trouve que la diminution des effectifs, qui n'est pas propre à la région, hein, qui est nationale, la diminution des effectifs a contraint les écoles de Curzé, Jasneuil et Sensé à se réunir dans un RPI. Ce RPI donc permet d'accueillir les enfants de maternelle à Curzé et puis les enfants des autres niveaux étant répartis entre l'école de Jasneuil et l'école de Sensé. L'école de Sensé est actuellement en danger. L'école de Sensé est en danger parce que les effectifs continuent de diminuer. Et objectivement, s'il doit y avoir une fermeture, elle ne peut pas être à Curzé, puisque Curzé est une école spécialisée pour accueillir des maternelles. Elle est équipée pour ça. Jasneuil a la possibilité d'avoir 3 classes. Et en plus, on est en train de faire 500 000 euros de travaux. Là, enfin, on a démarré 500 000 euros de travaux, donc on ne va pas abandonner notre école.
Cette pression qui pèse aujourd'hui sur l'école a depuis longtemps déjà eu de nombreuses conséquences sur les autres services de la commune.
Mais le Jasneuil Football Club, bon, il a résisté quand même quelques années, sauf que ces années dernières, ils ont dû le supprimer, comme la plupart des clubs de foot dans le coin, qui étaient devenus un peu morbides. La mentalité n'était pas la même, il y avait tellement de loisirs possibles maintenant que... Ça a complètement démoli la solidité que du club de foot. Quoi.
Sur l'actuel haut du bourg, qu'on appelle le Pinacle, merci. Donc il y avait une foire importante Et le bar qui a fermé l'année dernière était à l'époque un hôtel-restaurant. Il y a eu également une gare de 1913 à 31, je crois. 1913-1931, alors c'était un tramway en fait qui venait d'un peu plus loin et qui rejoignait Rouillet ou Lusignan. Bon, la gare subsiste. Malheureusement, on n'a plus de traces et ça ne devait pas être suffisamment rentable. Voilà, donc c'est un village qui a vécu il y a encore 40 ans. Il y avait beaucoup de commerces et beaucoup d'artisans. Puisque mon épouse m'en parle assez souvent, il y avait vraiment une vie dans le village, ne serait-ce que au niveau de, entre l'église et la maison du 15e, il devait y avoir deux ou trois bistrots, il y avait le cordonnier, il devait y avoir encore le maréchal Ferrand. Donc il y avait une vraie vie. Et voilà, et donc c'est actuellement un village qui ne comporte plus que un véritable commerce, c'est-à-dire le restaurant. La coiffeuse n'ouvre que occasionnellement. Quelques artisans qui subsistent, et heureusement. Voilà, et puis même le nombre d'agriculteurs a considérablement baissé, puisque eux aussi ont été victimes de ce qu'on appelle le progrès. Et donc, augmentation des surfaces, augmentation des parcelles, de la surface des parcelles, mécanisation, etc., etc. Donc ils ont maintenant de grandes surfaces et ils vivent pas mieux qu'ils vivaient il y a 50 ans. Voilà.
La population déjà elle est beaucoup moins, comme je le disais à l'instant, il y a beaucoup moins d'agriculteurs, donc c'est beaucoup moins axé sur le travail de la terre.
Stéphane Quitté, habitant de Jasneuil et membre de l'ACA, l'association communale de chasse de Jasneuil.
Le pourcentage, je ne sais pas exactement, mais je ne sais même pas combien il y a d'agriculteurs maintenant, il y en a peut-être 15, je ne sais pas. Et alors qu'avant, ils étaient peut-être 40, donc ils pesaient déjà les réunions, les petites fêtes de village, ça n'a pas qu'à parler d'agriculture. Ça, c'est plus beaucoup le cas.
Ah ben, la foire aux Vosges, c'était quelque chose, hein, parce que vous aviez des gens qui arrivaient la veille du 15 novembre pour avoir de la place. C'était impensable. Les Vosges, la majeure partie arrivaient par wagon à Lusignan, parce que nos commerciaux allaient les acheter en Auvergne. Ils avaient leur coup de ciseau choquant à leur... parce que c'est comme ça que les... Je ne sais pas si vous savez, mais autrefois, tel marchand, il y en avait qui faisaient un coup de ciseau en X marqué, l'autre c'était deux bâtons. Hein. Et après, quand les veaux étaient tous déchargés, on les ramenait à Pialu-Ajanoï. Et à ce moment-là, chaque marchand, chaque commerçant qui avait acheté, retrouvait ces veaux qu'il avait achetés de par leur coup de ciseau. L'année où j'ai quitté le groupement de défense sanitaire, il y avait 179 000 quelques bovins dans le département de la Vienne. 179 000. À Jasneuil, à l'époque, nous avions 37 exploitations. Quand j'ai dit 37 exploitations, attention, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, Madame Fruchard, ses parents avaient deux vaches et un cheval. Il y en avait beaucoup comme ça. Un cheval, deux vaches, ou une vache, trois chèvres, quatre moutons. Et on en est rendu aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a de ferme, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il doit y avoir encore trois exploitations importantes en bovin. Quand je dis importante, c'est plus de 100 bovins. Et une autre ou deux autres petites de 40. À l'époque, il y avait donc, moi je devais, quand j'ai rentré secrétaire au département, il devait y avoir 32 exploitations ou 35 exploitations. C'est dans ces chiffres-là. Et maintenant, il n'y en a plus que 4-5 exploitations.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture française est soumise à une obligation de modernisation. L'objectif est clair. Il faut nourrir la France de l'après-guerre, alors en plein boom démographique. L'État demande aux agriculteurs de produire plus. Cela se traduit alors, entre autres, par une mécanisation des techniques agricoles et un accroissement des surfaces cultivées, entraînant une baisse du nombre d'exploitations. Cette révolution silencieuse des campagnes est doublée par un autre bouleversement, celui de l'avènement de la voiture, qui révolutionne nos façons de nous déplacer. À Jasneuil, cela s'incarne très concrètement par l'inauguration de l'autoroute A10, qui relie Paris à Bordeaux.
Au niveau du patrimoine naturel, y a eu un remembrement quand l'autoroute est passée, en 1979-80. Donc toute la partie vers chez moi a été remembrée. Et remembrement d'époque, on fait le vide, on laisse rien, et puis voilà. Et en fait, cette autoroute, il se trouvait que son tracé passait sur des exploitations et où les agriculteurs perdaient beaucoup de terre. Donc je pense qu'il a été fait d'une pierre deux coups. Il fallait redistribuer aux agriculteurs qui perdaient gros, en prenant un petit peu à chacun. Et puis en même temps, le but c'était de moderniser l'agriculture française, dont on disait qu'elle avait beaucoup de retard sur l'agriculture américaine.
L'autoroute traverse la commune de Jasneuil en toute sa longueur, à partir de la commune de la Chapelle, qui est en limite de la route de la Torchesse-Potier, et qui va jusque de l'autre côté rouillé, sincèrement. Donc ça doit être entre... l'autoroute sur Jasneuil doit faire entre 15 et 17 km de long. Donc à la traversée, moi mon exploitation n'était pas grosse, j'ai loué sur toutes les terres, ça l'a coupé en deux.
Votre exploitation ?
Hein ? Ah oui. Ah ouais. Elle a coupé. Alors après, mais pour faire des... Parce que ça, ce n'est plus nous qu'on allait mettre. Hein. Le jour où il y a eu l'autorisation du passage d'autoroute, c'est l'autoroute qui s'est... Avec... moi, je ne saurais pas prendre les termes, mais il a fallu prendre quelqu'un pour faire telle exploitation, les rassembler par là, les autres par là. Donc, ce qui fait que tout Jasneuil a été bouleversé. Et vous prenez la partie nord de Jasneuil, beaucoup plus que la partie sud, bien ça, a été coupée en deux. La route de la chapelle a été coupée en deux, Rouillet a été coupée en deux. Si vous voulez, l'autoroute... elle a été mise en route en 1979-80, oui, c'est ça, 80, oui. Et donc, elle a mis 6 ans. Mais ça a été un chantier incroyable, Il y a une ferme, là, la mitirie du portail n'existe plus, la maison y est encore, mais l'autoroute passe à 50 mètres.
Quand j'étais gamin, c'est encore le bocage. Donc plein de champs, et on voyait pas les fermes aux alentours. Maintenant, on voit très loin. Donc, ouais. Mais bon, ça faisait partie de tout ça. Et c'était pas mal, quand même. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on recréera jamais le bocage tel qu'il a été. Et la nature prend jamais deux fois le même chemin. Donc on aura beau refaire les parcelles presque à l'identique, ce qui n'est pas possible avec la taille du matériel, on fera pas pareil. Ce qui est perdu, de toute façon.
Disparition du bocage et transformation des paysages, fermeture progressive des commerces et forte pression sur les services publics. Ce qui est perdu de toute façon. Au cours des dernières décennies, les campagnes françaises se sont beaucoup transformées et Jasneuil ne fait pas exception. Mais alors comment faire ? Comment s'adapter ? Comment réinventer ? À Jasneuil, ce qui frappe quand on arrive de l'extérieur, c'est l'énergie que certains déploient pour faire vivre la commune. Des élus et des agents lucides, des habitants fiers de leur patrimoine local, des associations dynamiques, une solidarité forte du pays médusin. Autant d'ingrédients sur lesquels s'appuyer pour influencer la trajectoire du territoire.
Je trouve qu'il y a des associations qui sont très dynamiques et qui s'impliquent vraiment dans la vie du village. Ça, c'est super important.
Stella Boutin, habitante de Jasneuil et secrétaire municipale.
Pour avoir travaillé dans d'autres communes, quand le milieu associatif est pauvre, c'est triste. Alors que sur Jasneuil, il y a quand même une certaine activité qui est, voilà. Chaque association a son point fort, etc. Et donc, ben voilà, tous les administrés, j'imagine, en sont conscients. Alors moi, peut-être encore moins qu'eux, parce que ça fait pas bien longtemps que je suis là, mais on voit que tout le monde suit, quoi. Le village suit. Jasneuil, en fait, au mois de juin, ben voilà, y a du monde, c'est super. Le théâtre du début janvier, bon, malheureusement, qui n'a pas eu lieu cette année ni l'année d'avant, mais cette année, je pense, va recommencer. Donc là, il y a du monde aussi. La PE, après, ben, y a du monde. Après, souvent, c'est les parents, bien entendu, parce que ou les grands-parents qui habitent là. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un milieu associatif qui est très développé, et tout le monde a envie de faire, de marquer sa pierre, de mettre sa pierre sur la vie de Jasneuil, sur l'année, sur voilà. Et je trouve que ça, c'est chouette, parce que c'est, ben ça, voilà, le milieu associatif, c'est ce qui fait vivre aussi le côté festif de la commune, quoi, tout simplement.
Bah pour moi, déjà, un village, c'est composé de plein de gens différents. Et ne pas imposer une manière de vivre à tout le monde, c'est bien aussi.
Marine Chevalier, nouvelle habitante de la commune.
Un village écolo, c'est pas forcément si quelqu'un ne l'est pas dans le village, une exclue, ou il n'est pas pris, ou je sais pas quoi. Parler de ça à la manière forte et ne pas imposer des choses aux gens, ça fait partie aussi de... Tu sais, en fait, dans l'environnement, quand je fais une visite avec la LPO, on rappelle toujours que, oui, c'est mieux de ne pas tondre son gazon, mais en même temps, les voisins, s'ils ont envie de le tondre, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, même si ça casse la biodiversité à un mètre de chez toi, bah, en fait, à un moment donné, t'as pas la main sur tout. Et être acteur de ce qu'on a envie de faire, c'est aussi laisser les autres être acteurs de ce qu'eux, ils ont envie de faire, parce qu'on ne vit pas tout seul. Hein? Donc c'est important, un village écolo, il faut aussi se dire c'est un village avant tout, où plein de gens différents vivent ensemble. Mais c'est tout bête, hein, même dans son propre jardin, on s'imagine, ah oui, je vais faire installer ça, je vais mettre ça. Et en fait, on n'y pense pas tout de suite, on se dit, oh, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va donner? Mais en fait, dans 100 ans, ça va donner quoi? Enfin, c'est ces questions-là qu'il faut se poser aussi au quotidien. Dans un village écolo, il faut vraiment y penser, quoi. Vraiment. Donc c'est deux notions, c'est le vivre ensemble et...
Et ce qui m'intéresse, moi, justement, dans cette démarche qu'est l'avenir pour Jasneuil, c'est qu'on ouvre une discussion entre des points de vue écologistes qui sont différents, qui au départ peuvent sembler antagonistes, mais quand on arrive à ouvrir cette discussion, on s'aperçoit que cet antagonisme n'existe pas réellement et que donc il va falloir que chacun est fréquentable et que donc on peut aller plus loin et essayer de trouver une solution commune.
Transition écologique et sociale, ça veut dire que on agit pour l'écologie, mais aussi pour le bien-être de la population. Donc améliorer des choses ensemble, améliorer des choses sur le plan environnemental, mais ensemble, avoir un chemin de pensée uni. Et pour qu'on soit, de toute façon, on est toujours plus fort ensemble. Je pense qu'on peut faire plus de choses en étant plusieurs personnes qu'en étant tout seul.
Les liens et informations relatives à ce projet sont disponibles en description de ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, discuter et échanger, n'hésitez pas à nous écrire. Merci à Marie-Françoise Collant, Jean-Louis Maréchal, Claude Mazin, Stella Boutin, Sarah Bellini, Marine Chevalier, Bernard Chauvet, Stéphane Quitté, Annie Quitté et Jacques Taureau.